Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique jusqu'à 20h30. Culture noire, culture numérique, voici les deux axes de notre émission de ce soir autour de deux invités qui ont en commun d'être, pour une part, américains. Glenn Ligon est l'un des artistes noirs américains les plus remarqués. Une importante rétrospective au Whitney Museum a fait de lui un artiste de référence depuis 2011. Surtout que le président Barack Obama a choisi l'une de ses œuvres pour décorer ses appartements privés à la Maison Blanche. Une autre de ses œuvres, créée spécialement, sera exposée à partir de mardi au musée d'Orsay à Paris. Glenn Ligon est mon invité ce soir. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Il est un entrepreneur du web, un innovateur, un développeur, si l'on entend le mot comme celui qui développe des réseaux. L'américain australien ou l'australo-américain Jeremy Hyman's a un lien lui aussi avec Barack Obama, dont il a participé à la campagne numérique de 2008. Il publie cette semaine en français « Nouveau contre-pouvoir » chez Plon. Il est mon second invité ce soir. Bonsoir Jeremy Hyman's.
Ravi d'être ici, merci.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis en seconde partie d'émission, à 20h, votre invité Innovation, Zoé Sfez. Bonsoir, Sora.
Sora, Judith Duportail, journaliste enquêtrice qui publie cette semaine « L'amour sous algorithme » aux éditions de la Goutte d'Or. C'est une enquête écrite à la première personne, on est vraiment dans de la narrative non-fiction à l'américaine, sur Tinder, son algorithme et les philosophies qui sous-tendent cet algorithme très opaque qui influence la vie amoureuse de plusieurs de centaines de millions de personnes, je crois, aujourd'hui à travers le monde.
20h10, le club de la presse numérique, avec vous également, Zoé Sfez. Ce soir, on parle de Google. Où va Google ?
Où va Google ? Google qui, à la fois, s'est pris une amende par la ROP et qui, en plus, au-delà de ça, lance une première console de jeu intégrée dans son cloud. Voilà. Où va Google ? On se posera la question avec Emmanuel Paquette et Amaël Guiton, nos deux comparses du Club de la Presse Numérique.
Emmanuel Paquette de L'Express, Amaël Guiton de Libération. Cette émission réalisée ce soir par Sonia Leglaine avec un régie Anthony Thomasson. Elle a été préparée par David Laveau. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h30. Je commence cette émission par un clin d'œil culturel. On en avait parlé dans Soft Power lors d'une émission pour Noël. Voici qu'arrive en librairie ces jours-ci la biographie de Léonard de Vinci, signée par Walter Isaacson. Isaacson, on s'en souvient, fut le biographe de Steve Jobs, fondateur d'Apple. Et certains trouveront donc étrange qu'il s'intéresse maintenant à Léonard de Vinci, de Steve Jobs à Léonard de Vinci. Pourtant, ce sont deux innovateurs, et les innovateurs, c'est sa spécialité. Il a d'ailleurs signé un autre livre intéressant sur Einstein. Avec Léonard de Vinci, Walter Isaacson signe un livre remarquable d'intelligence et de modernité. Loin des biographies datées, comme celle de Kenneth Clark, qui reste cependant la référence, et plus loin encore de la biographie de Daniel Arras, qui est réservée un peu aux spécialistes, et il faut bien le dire, elle est assez illisible. Ce beau livre consacré à Léonard de Vinci, lui, je vous le recommande. Isaacson s'est entouré des meilleurs spécialistes de l'artiste, ce qui lui permet de réussir son coup. L'ouvrage est accompagné d'innombrables dessins, photos et schémas qui rendent le livre tout simplement beau. Et le texte est à la fois accessible et profond. C'est l'innovateur donc, Léonard de Vinci, qui obsède Walter Isaacson. Mais sur la peinture, comme sur la vie du peintre, le livre réussit l'exploit de convaincre l'amateur et de satisfaire le spécialiste. Une lecture idéale, alors qu'on fête cette année, en 2019, les 500 ans de la mort de l'un des plus grands génies de tous les temps. Léonard de Vinci, par Walter Isaacson, vient de paraître chez Quanto. L'actualité, comme chaque semaine, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias pour commencer cette émission avec nos chroniqueurs, en tout cas notre chroniqueuse et nos invités. On commence avec vous, Zoé Sfez, par la polémique mondiale autour de Facebook. Encore une fois, Facebook qui a diffusé la vidéo de la mort de 50 personnes lors de l'attaque terroriste et anti-musulman de Christchurch en Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Il a fallu 29 minutes pour que cette vidéo soit signalée et plusieurs heures pour que les copies innombrables faites sur Facebook, mais aussi sur YouTube, Twitter ou 8chan soient supprimées. Facebook affirme avoir enlevé plus d'un million de vidéos en 24 heures, mais Zoé, ce n'était pas suffisant.
Alors, c'était pas suffisant. Je sais pas si on peut parler de polémique. En tout cas, on est en train d'acter un espèce de changement de paradigme parce qu'on est sur, effectivement, un cas sans précédent. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer que quand le gouvernement néo-zélandais a annoncé publiquement qu'il y avait eu un attentat, la première chose qu'ils ont fait, c'est de dire de ne pas partager cette vidéo sur Facebook.
Ce qui
a sans doute aussi déclenché des appétits et des envies de la part des gens qui avaient envie de le faire. Mais surtout, ça montre qu'un gouvernement, quand il reconnaît un attentat, est obligé de dire ça dans un premier temps, ça place Facebook ça donne tout son poids à Facebook. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une avalanche toute la semaine de communiqués de la part de Twitter, de la part de Facebook, pour expliquer ce qui s'était passé et pourquoi notamment cette vidéo n'avait pas réussi à juguler cette vidéo. En fait, cette vidéo, au moment où elle est en direct, elle n'est vue que par 200 personnes à peine. Et elle n'est pas signalée, parce qu'en fait, pour qu'une vidéo finalement disparaisse de Facebook, il y a des algorithmes, des intelligences artificielles qui regardent ce qu'il y a dedans et qui peuvent automatiquement la censurer, ou il faut qu'elle soit signalée. Or là, elle n'est pas signalée par les 200 personnes qui la regardent, et Facebook, dans un deuxième communiqué, explique pourquoi son intelligence artificielle n'a pas réussi à comprendre qu'il s'agissait d'un attentat. Ils expliquent que leurs intelligences artificielles sont très bien entraînées pour reconnaître, par exemple, des vidéos suicidaires, ça il y en a beaucoup, et qui sont supprimées quasiment tout de suite, des vidéos d'attentats, mais des intelligences artificielles qui sont pas entraînées à reconnaître tous les attentats. S'il y a arme blanche, ça peut fonctionner. Ils expliquent qu'ils ne peuvent pas trop entraîner d'intelligence artificielle sur la question des armes, parce que, par exemple, quelqu'un qui joue en direct à un jeu vidéo et se filme en train de tirer sur des gens, sur des jeux à la première personne, comme on dit, eh bien, ça pourrait être une vidéo qui pourrait être automatiquement supprimée en tant qu'attentat. Donc là, en l'occurrence, l'intelligence artificielle de Facebook ne fonctionne pas. Et puis, finalement, il y a très peu de gens qui la voient sur le moment. Il n'y a que 4000 personnes, 10 minutes après la fin de ce direct, qui ont vu la vidéo. Oui, mais sauf que sur ces 4000 personnes, il y a quelqu'un qui en fait une copie. 29 minutes après, à ce moment-là, au moment où il y a 4000 personnes, la vidéo est signalée. Facebook donc l'enlève. Facebook fait ce qu'on appelle des empreintes, c'est-à-dire qu'elle prend une empreinte de cette vidéo et fait en sorte que d'être alertée par algorithme quand elle sera partagée, à la fois sur Facebook, sur YouTube, etc. Elle arrive à en bloquer automatiquement le riposte. Oui, mais évidemment, les internautes ne sont pas si idiots et donc il est impossible, même avec une empreinte, d'empêcher la publication de vidéos qui ont été modifiées. Soit c'est des extraits, ça commence pas et ça se termine pas au même endroit, soit on rajoute un cadre, soit on rajoute une voix qui parle dessus. Et là, on est sur effectivement près de 800 vidéos qui réussissent à être postées dans les heures qui suivent, par souvent en plus des internautes qui ont des commentaires relativement apologétiques à faire sur cette vidéo. Ensuite, il y a une collaboration entre Facebook, entre Twitter et le gouvernement. Le gouvernement néo-zélandais et YouTube, avec effectivement un partage d'empreintes, etc. Ils arrivent donc, paradoxalement, à empêcher 1,5 million de vidéos. C'est ce qu'ils essayent d'expliquer dans leur communiqué. On a 1,5 million de vidéos qui ont été postées dans les heures qui ont suivi et qu'on a pu retirer qu'a posteriori, mais on a réussi à arrêter, en tout cas à empêcher l'équivalent qui, elles, n'ont jamais vu le jour. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, et ils ont tous essayé de le dire, et Twitter, et Facebook, et YouTube, on n'avait jamais vu autant d'importance. C'est-à-dire, une vidéo n'a jamais pris une telle ampleur. Ils ont bloqué un contenu lié à cette vidéo pendant 3 jours, toutes les secondes. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est sur un phénomène d'une ampleur, pour le moment, inégalée.
Unstoppable.
Ouais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est effectivement une forme de reconnaissance de la part de tous ces géants du web. Et bien que voilà, et c'est là qu'on rejoint la problématique du livre de Jeremy Hyman's, on va dire la forme d'échec d'une édition, en tout cas d'une gestion automatisée des contenus. Et ça montre bien que c'est l'internaute, le discours, la manière dont il arrive à contourner un contenu, à l'enrober, à en parler, qui fait que ce contenu devient viral ou pas.
Jeremy Hyman's, vous publiez Nouveau contre-pouvoir chez Plon. Peut-être une réaction sur ce type à la fois de phénomène, mais aussi de contrôle par les masses qui ne fonctionne pas.
Well, look, there's a bigger question, I think.
Je crois qu'il y a une question
très importante derrière, savoir si l'intelligence artificielle est suffisamment capée pour pouvoir contrôler ces images et ces vidéos. Mais l'idée, c'est que le modèle de business de Facebook fonctionne sur les extrémismes. Et c'est de trouver des éléments qui vont nous provoquer. C'est difficile de nier cette chose. Et bien évidemment, tout c'est le flot de YouTube et de Facebook ont souvent des contenus qui sont très provocants pour attirer le chaland. Et c'est la base même de ce que va utiliser un suprémaciste blanc, c'est-à-dire de rendre les choses beaucoup plus visibles, et donc ils vont être encore plus radicaux, et ils vont utiliser ces réseaux sociaux. Donc je crois que, bien évidemment, dans la conversation, c'est de savoir à quel point on peut effectivement essayer d'arrêter tous ces contenus qui apparaissent, mais je crois qu'on perd quelque chose, qui est l'élément suivant, c'est-à-dire que ces plateformes n'ont aucun intérêt, ont aucune façon de modérer ces types de discours extrémistes, puisqu'ils les cultivent au final.
Et puis ça leur fait de l'audience, d'une certaine manière.
Bien sûr. Alors ça donne beaucoup... au niveau de Donald Trump, par exemple, on a vu les réseaux sociaux qui ont été très liés aux suprémacistes blancs qui ont vraiment aidé sa campagne présidentielle. Donc ça, c'est un réseau qui a été légitimisé par Donald Trump, mais aussi, il faut dire, légitimisé par Facebook.
Par les plateformes.
Oui, voilà, toutes les plateformes.
Dans un instant, je reçois l'artiste américain Glenn Ligon. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine et pour faire un lien avec ce qui suit, un extrait du nouvel album d'Abdelmalik, Le Jeune Noir à l'épée, un récit poétique subtil par le rappeur français dont la famille est originaire du Congo, récit qui sera l'occasion d'un spectacle au musée d'Orsay autour de la question noire. C'est d'ailleurs un tableau de Puvis de Chavannes et un autre de Manet. Il y a des textes de Baudelaire qu'Abdelmalik se réfère ici, et il rappe, on rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec ?
On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse-Lautrec? Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigu sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute, s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque, je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée, hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée, hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe sous ces décombres. On a vu nos potes se faire fumer, hey. On prône la paix, pas l'épée, hey. On a vu nos frères et nos sœurs morts sous ce décor, on tombe.
France Culture, vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h30. Mon invité Glenn Ligon, artiste américain. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez créé, l'œuvre existe déjà, on a pu la voir en avant-première, une œuvre intitulée « Des Parisiens noirs » en français, 12 néons blancs de grande taille qui mêlent des noms illustres, celui par exemple de Joséphine Baker ou Alexandre Dumas, avec des noms inconnus de personnes qui ont posé sans rester anonymes. C'est une œuvre sur la visibilité finalement et l'invisibilité si visible qui sera donc exposée à partir de mardi jusqu'au 21 juillet au musée d'Orsay. Deux panneaux sur les tours au fond de la nef centrale immense, hein, du musée d'Orsay. D'où est venue cette idée et comment a-t-elle été faite, cette œuvre ?
I got the idea because I was
L'idée m'en est venue parce que j'ai été invité par les curateurs du musée d'Orsay. On m'a demandé donc de correspondre, de faire un parallèle avec cette exposition sur des portraits peints par des artistes tels que Jericho ou Matisse, et de faire un parallèle. Et donc j'ai vu cette exposition à New York qui reprenait en fait ces mêmes éléments. Exposition qui n'est pas exactement celle d'Orsay, mais qui reprend quelques points. Et donc, voilà, j'ai repris en fait cette idée de ces différentes personnes qui posent et qui sont reprises dans des portraits. Pour vous donner un exemple, il y a l'Olympia de Manet, il y a deux personnages représentés dans le tableau, il y a cette femme allongée, Olympe, et puis il y a cette servante noire. Il a beaucoup été écrit sur cette courtisane, mais bien évidemment, tout ce qu'il pouvait dire et trouvé sur la biographie de cette servante était pratiquement inexistant. Elle reste centrale, on parle beaucoup, c'est vrai, dans tout ce qui a été écrit sur le tableau, peut-être pas autant, et elle n'est pas très très connue malgré le succès de ce tableau et le nombre de personnes, de chercheurs qui ont glosé sur le tableau. Donc on a commencé à chercher, à se poser des questions sur cette femme qui finalement est assez invisible, visible, mais si invisible. Et donc l'idée nous est venue de développer ce projet et reprendre ces noms de personnes qui sont par exemple très connues, comme vous l'avez dit, Joséphine Baker, et Laure, qui est cette jeune servante dans le tableau d'Olympia. Et très peu a été fait sur elle, a été étudié sur elle. Et donc cette œuvre d'art, c'est reprendre en fait cette recherche qui a été faite autour de ces personnes qui malheureusement ne sont pas reprises, qui ont été oubliées, penser comment on peut à nouveau la rendre visible.
C'est au fond la faire sortir de l'oubli, la mettre au sens strict en lumière.
C'est tout à fait ça, c'est l'éclairer, shining a light, comme on dit en anglais. Mais si vous regardez les œuvres d'Orsay, notamment les néons qui sont utilisés ont une partie noire juste devant, vous voyez. Donc cela donne une lumière tout à fait à part, mais on a l'impression que c'est une éclipse, donc ce n'est pas si visible. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, ce n'est qu'un début. C'est vrai que l'exposition d'Orsay est une solution, mais n'est pas une solution totale à tout ce qui a eu lieu et tout ce qui n'a pas été fait sur ces gens-là. Je crois que nous initions un mouvement et après des centaines d'années, on a l'impression de tout savoir sur l'Olympia de Manet, mais il y a tellement de choses à gratter, à chercher sur cette œuvre. Et je crois que, comme je disais, c'est une des idées de cette exposition et c'est ce que j'ai gardé à l'esprit lorsque j'ai réalisé donc ces œuvres en néon.
Il y a tous ceux aussi qu'on n'a pas retrouvés, on ne sait pas qui ils sont. Et c'est pourquoi vous avez sur ce panneau, au fond de la nef centrale du musée d'Orsay, sur les deux tours, aussi l'expression « non inconnu », un peu d'ailleurs comme on dirait la tombe du soldat inconnu. Et ce « non inconnu » qui est mentionné, écrit comme ça, en néon, ça renvoie à tous ces personnages absents ou dont on ne connaît même pas l'identité.
Comme je le disais, Laure, qui est représentée dans l'Olympia de Manet, on ne connaît pas son nom de famille, mais il y en a plein d'autres, comme vous l'avez dit, dont on ne connaît même pas le prénom. Elle est donc très tout à fait possible qu'à l'avenir, il y ait d'autres recherches réalisées par des chercheurs, ou pas. Donc, nom inconnu était justement prendre conscience de tous ces noms qu'on ne retrouvera pas peut-être, mais on ressent leur présence dans toutes ces peintures et on les voit de toute façon puisqu'ils sont représentés au sein des peintures.
Glenn Ligon, vous êtes l'un des artistes américains aujourd'hui les plus reconnus, notamment quand on entre au Whitney Museum, c'est une œuvre permanente de vous qui est à l'entrée du musée. Il y a eu plusieurs périodes dans votre parcours, on vous a souvent assimilé, on peut peut-être commencer par cette période-là, comme au fond un peintre avec des textes, on dit text painter en anglais, des textes qui la plupart du temps sont liés à la culture littéraire africaine-américaine. Est-ce que c'est des citations, un mot, une façon de dire merci, de raconter une histoire plus large dont on est un maillon? Est-ce que ce sont des prises de position politique, political statement, écrire avec des mots, peindre avec des mots?
Well, I actually started not with text. I started.
Je n'ai pas commencé par les textes. J'étais beaucoup plus abstrait au début. J'étais un peintre abstrait. Mes héros étaient de Kooning.
Twombly, artists like that.
But I realized des artistes de cette envergure, mais je voulais en fait exprimer des choses dans ma peinture que l'abstraction ne me permettait pas de vraiment montrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai introduit les textes. J'ai essayé de donner plus de contenu à ma peinture, et cela avait tout à fait à voir avec les discussions, tout ce que je lisais, mais également avec les différents chercheurs sur plusieurs sujets. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'utiliser les textes et de peindre à travers ces textes. Je crois que l'utilisation de textes est multidisciplinaire pour moi, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je passais de faire de l'archéologie. Vous savez, je cherche, je gratte. Par exemple, il y a des écrivains très célèbres, comme un écrivain de Harlem qui écrivait dans le 16e, qui a écrit avec des textes très particuliers. J'ai pensé à tous ces personnages que j'ai voulu remettre dans la peinture en utilisant ces mots et en leur donnant une possibilité d'être mieux vu et mieux compris. Je crois que effectivement on peut parler d'un projet politique, peut-être parce que si vous utilisez une citation de Jean Genet ou une citation de Jean Huston, ce peintre dont je parlais, ou un autre écrivain ou artiste, c'est vrai que vous l'introduisez totalement dans mon projet artistique, et c'est ce que je fais. Et le fait de mettre ces mots dans la peinture, par exemple, dans le Whitney Museum dont vous avez parlé, c'est un peu voir comment les artistes, comment vous, en entrée, vous pouvez trouver une relation entre l'artiste et son projet.
Les auteurs que vous citez sont très variés. On peut mentionner, bien sûr, James Baldwin, qui reviendra constamment dans votre œuvre, Ralph Ellison. On a des musiques de Billie Holiday qui vont être diffusées, notamment Strange Fruit, au même moment que la peinture est visible. Vous citez Henry Louis Gates Jr., un intellectuel beaucoup plus récent, vivant d'ailleurs. Malcolm Lix, que vous colorez presque drag queenisé avec un rouge à lèvres. Muhammad Ali, etc. Dans un grand nombre de cas, ce sont des artistes ou des écrivains ou des figures noires. Vous avez cité aussi Jean Genet, mais qui s'est intéressé à la question noire aussi. Il y a un choix très précis qui est fait de ces auteurs.
Well, I'm interested in artists that have a broad kind of sense of what culture is.
Qui ont une vision de la culture extrêmement large. Comme je disais, Jean Genet s'inquiétait beaucoup et s'intéressait de la difficulté à vivre pour certaines communautés. Il était très ami avec les Black Panthers. Il est venu aux États-Unis pour les soutenir dans leur action. Et c'est vrai, dans son livre Les Prisonniers de l'amour, il en a beaucoup parlé. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a un mix, comme un creuset culturel qui est très intéressant dans ce que lui peut proposer. Pour les autres auteurs, il y a également des images que j'ai utilisées, pas seulement des textes. Vous savez, par exemple, en reprenant cette image de Malcolm X que j'ai fait colorier par des enfants, comme si c'était un livre de coloriage, et à partir de là, j'ai réutilisé le travail pour en faire une peinture. Une autre chose qui m'a également intéressée, c'est de génération après une autre génération, c'est vrai qu'on repense l'histoire et on transforme les images. Par exemple, ce que Malcolm X représente dans cette image, de coloriage, n'a rien à voir avec celle que moi je vais donner à des enfants maintenant, entre les années 80 et les années et maintenant, ça n'a rien à voir. Les enfants ne vont pas envisager les choses de la même façon. Donc il y a tout un changement historique. Également, si vous donnez une image à un enfant avec une personnalité, c'est simplement une image qui va colorier, ça n'a rien à voir avec lui. Il n'a pas derrière toute cette idée politique et historique que vous pouvez coller à l'image. Donc c'est vrai que ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est d'avoir cette liberté, retrouver cette liberté qu'ont les enfants lorsqu'ils s'attachent et s'attaquent à ce type d'image et qu'ils ne pensent pas comme étant des icônes, mais eux, en faisant ça, en réutilisant ça, on en refait des icônes à une époque où ils ne le sont peut-être plus au centre, et reprendre ces personnages historiques et comment pouvoir les maintenir aussi importants d'une génération à une autre génération.
Je citais James Baldwin et notamment votre série Stranger, magnifique, empruntée au titre Stranger in the Village, de l'essai de James Baldwin en Suisse. Mais on a l'impression, quand on regarde votre œuvre, qu'on est dans un dialogue constant entre moi, nous, eux, vous. Et ces lettres d'ailleurs, ces mots, I, we, they, you, reviennent constamment. Qu'est-ce qui parle quand vous dites je, par exemple? Il y a une œuvre d'un portrait de Michael Jackson où vous dites, au fond, c'est moi quand j'avais son âge.
If you look at any text, or read any text, or look at an
image. Si vous regardez ou lisez un texte, vous regardez une image et vous sentez une connexion avec cette image. Elle rentre en vous, elle fait partie de vous et elle vous définit d'une certaine façon. Très tôt, lorsque j'ai commencé à utiliser les textes, c'est vrai que j'étais complètement attirée par des essais qui reprenaient ce mot de je. I. Et c'est vrai que je reprenais ces éléments dans la peinture qui utilisait ce jeu. Et c'est vrai que si moi je fais ça, il y a une confusion. Qui parle? C'est l'artiste ou c'est l'auteur du texte? Et cette confusion entre l'auteur et le peintre, et même celui qui regarde, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce type d'identification, de perte dans l'identification qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi savoir la personnalité. Souvenez-vous, quand vous étiez un enfant et vous identifiez à ce chanteur tellement que vous vouliez être ce chanteur. Vous repreniez la chorégraphie, vous pouviez reprendre les paroles, et vous le faisiez pour vos parents. Eh bien, cette identification assez intense, identification d'une personne qui n'est pas vous, et cette idée que l'on retrouve dans mon travail, par exemple, sur Michael Jackson. Michael Jackson est devenu, en fait, un autoportrait d'une certaine façon, mais c'est aussi le portrait d'une culture, d'une époque. Alors, évidemment, assez compliqué quand on parle de culture. Et c'est aussi maintenant compliqué puisqu'il a malheureusement eu un comportement abusif sur les enfants. Enfin, il a été très critiqué par cela, et cela revient maintenant dans l'actualité. Mais c'est quelque chose. C'est une personne avec qui j'ai grandi.
L'œuvre s'appelle Self Portrait at 7 Years Old, et c'est un portrait de vous et de Michael Jackson à la fois. Une des œuvres que je préfère de vous, ce sont deux néons qui, d'ailleurs, l'un est allumé, l'autre est éteint, et puis ils alternent en blanc et en noir, et les mots écrits sont simplement me et we, moi et nous. C'est une œuvre au Studio Museum à Harlem, à New York. Quelle est la part de votre propre identité dans votre œuvre? Vous défendez souvent celle d'un black gay man. C'est une identité, ou est-ce que ce sont deux identités, ou peut-être trois identités, ou même des identités multiples?
Oh, intersectionality. Many identities.
Alors, je dirais que ce sont de nombreuses identités, yeah, que je ne peux
and
pas
in
diviser.
Some ways, that piece,
et
Miwi,
cette œuvre d'art dont vous parlez, dans cette œuvre, Miwi, le titre officiel est Give Us a Poem, donc montrez-nous un poème, donnez-nous un poème. Dans les années 70, le boxeur Mohamed Ali a fait une présentation à l'université d'Harvard, et à la fin, un étudiant a crié: montrez-nous votre poème.
Mohamed Ali,
donc, moi, oui. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a montré. C'est c'est-à-dire qu'il y a une identité individuelle, il est individualisé, mais en même temps, elle se rapproche à tous. Et c'est vrai que Mohamed Ali a une telle connexion avec la communauté d'Harlem, et c'est vrai que sa rue est très célèbre à Harlem, et c'était une façon de dire au public qui rentrer dans le musée, voilà, il y a cette connexion. Et ceux qui ne rentrent pas dans le musée peuvent quand même avoir ce lien parce qu'ils le voient en passant. Donc il y avait une façon de s'identifier à ce qu'il y a dans le musée, à ce qui est à l'extérieur du musée. Mohamed Ali est un personnage qui est très important dans cette communauté de Harlem. Mohamed Ali est vraiment très identifié à un niveau très élevé de la communauté noire, notamment lorsqu'il a été très critiqué par la communauté américaine au sens large. C'est tout ce qu'il y avait derrière cette œuvre, cette idée d'identité qui va plus loin, qui va vers une communauté au sens large et qui aussi reprend l'individu et montre à quel point que les choses sont intimement connectées. Et donc la communauté est toujours présente.
Quand on s'intéresse à des œuvres comme celle de James Baldwin, par exemple, qui est à la fois un écrivain noir, mais aussi un écrivain gay, on se demande quelle est l'identité qui domine, s'il y en a une, et on peut d'ailleurs penser que c'est peut-être la question noire qui domine chez Baldwin. Si on prend Langston Hughes, par exemple, grand poète noir américain, Black is Beautiful, etc., également gay et noir, le noir peut-être domine. Si on prend un écrivain français comme Proust, juif et gay, là, pour le coup, c'est le gay qui domine. Chez Glenn Ligon, est-ce qu'il y a quelque chose qui domine, ou est-ce que c'est selon les périodes, ou est-ce que les deux identités sont à ce point mêlées qu'on n'arrive pas à les distinguer?
Je ne crois pas qu'elles soient séparables. De cette façon, en tout cas. Tout ce que je dis peut être interprété comme venant de la part d'un homme noir. C'est aussi une partie de mon identité comme homme homosexuel. Et je crois que les deux ne sont pas séparables. Alors, il est vrai qu'à un moment, une ou l'autre des identités, si on peut parler d'identité, peut être plus mise en avant. Mais je ne crois pas que ce soit productif de penser comme ça. Je pense que c'est une façon de se présenter et qu'elle se mélange, elle se croise. Et donc, il y a un flou dans ces identités et il y a cette possibilité, justement, de pouvoir aller dans différentes sphères, différents mouvements et pouvoir être en contact avec des communautés très différentes, puisqu'au final, nous avons des choses à défendre dans chacune de ces communautés. Parce que part de notre identité est comme une boîte avec plein de choses dedans. Je pense que ce ne soit pas aussi simple qu'une boîte où il y a juste une chose que vous pourrez trouver dedans.
J'ai l'impression que vous parliez d'intersectionnalité tout à l'heure. J'ai l'impression aussi que votre œuvre et le fait de juxtaposer des images et du texte, que ce soit du texte littéraire ou aussi parfois des témoignages, c'est aussi une manière d'avoir un discours sur la représentation des Noirs, des hommes noirs d'ailleurs gays, et comment elle pèse aussi sur la population noire et sur un homme comme vous qui est gay et noir. Vous aviez fait cette œuvre qui s'appelle A Feast of Scraps, je crois, avec des photos d'hommes gays, des photos porno d'hommes gays, et vous aviez juxtaposé des photos de baptême, des photos de famille, des phrases aussi très intimes de gens qui racontent leur coming out, qui marquaient une espèce de contraste entre cette image hyper sexualisée qu'on peut avoir du corps de l'homme noir et en réalité une identité beaucoup plus intime, beaucoup plus complexe. Vous aviez fait aussi cette œuvre qui s'appelle Disembark, où vous essayez de montrer comment finalement l'imaginaire de l'esclavage continue à peser sur la communauté noire aux États-Unis. C'est pas uniquement des personnages positifs, vous montrez aussi qu'il y a une question de représentation pour les noirs eux-mêmes aux États-Unis.
Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'œuvre Feast of Scraps, qui était en fait, c'était des photos d'un album de famille que j'ai repris. En fait, j'ai sexualisé certaines images, comme vous le disiez, d'hommes noirs. C'est que cet album de famille est une façon dont la famille se représente elle-même et se voit. Et moi, quand je regarde cet album de ma famille, je vois des photos de mes oncles, notamment un d'entre eux qui est homosexuel, mais malheureusement, il ne peut pas être représenté comme un homme gay au sein de cet album familial. Donc, l'idée était de savoir de reprendre ce qui était déjà présent, mais le rendre beaucoup plus spectaculaire. Alors donc, en ayant des photos de mariage ou de réunions familiales, avec ces images très spectaculaires d'hommes noirs nus, et donc montrer que il faut maintenant remettre à la lumière, enfin exposer ce qui est entre guillemets. Je pense qu'il existe une multiplicité de façons de représenter une famille noire, mais aussi des gens noirs. Non seulement une critique de la façon dont nous avons été représentés tout au long des années dans notre culture, mais la façon dont nous nous pensons nous-mêmes et nous nous représentons. Et je crois que ça, c'est un des projets qui est le plus important dans tout ce que j'ai. Cette notion de la façon dont nous nous présentons, dont nous représentons nous-mêmes.
Glenn Ligon, artiste invité du Musée d'Orsay pour l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse qui commence mardi, qui sera jusqu'au 21 juillet. Et dans cette exposition, il y a une œuvre immense en deux grands panneaux de Glenn Ligon, donc, qui s'appelle Des Parisiens noirs, avec des néons et des peintures. Une question sur Barack Obama. On vous a souvent associé à lui parce qu'il a retenu. Il a choisi d'exposer une de vos œuvres dans ses appartements privés de la Maison Blanche. Je crois que c'est Black Like Me Number 2. Quelle est cette œuvre et comment vous avez réagi au fait qu'au fond un président s'intéresse à l'art?
Well, Barack Obama is still my president.
Barack Obama dans mon cœur est toujours mon président.
And I was very flattered
et
that,
j'ai été très flatté, bien évidemment,
Obama,
quand lui et Michelle Obama ont emménagé à la Maison Blanche et ont décidé de s'entourer d'art, d'œuvres d'art, et ils ont choisi une de mes œuvres pour leurs appartements privés. J'ai jamais vu, parce que c'était chez eux. Et il faut le reconnaître, la Maison Blanche reste aussi une maison avec des appartements privés. Mais quand je l'ai rencontré, quand j'ai rencontré le président, il a été très clair pour moi qu'il avait parfaitement compris l'art, qu'il n'a pas peur de l'art, ce n'est pas un problème pour lui. Il emmène ses filles voir des musées. Il y a un vrai dialogue qui a pu s'établir. Et d'ailleurs, il m'a dit, quand je l'ai rencontré, en plus de la peinture, ils ont des gravures, des prints, oui, qu'ils ont dû enlever parce que l'éclairage était trop fort, donc la lumière était trop forte, et ils avaient peur que cela soit abîmé. Et c'est incroyable qu'ils sachent qu'est-ce qui est dans la maison, ce qui n'est pas dans la maison. Et maintenant, il faut. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on est un président américain, être le président, un président qui met de l'art dans les couloirs ou qui pend de l'art dans les couloirs, c'est pas quelque chose que moi je m'attendais à rencontrer.
Pour terminer, Glenn Ligon, il y a une œuvre très célèbre que vous avez faite, tout simplement en néant le mot « America », des mots magiques, ce mot magique « America » avec des lettres inversées, ou alors parfois c'est des lettres qui sont tournées vers le sol, ou encore des lettres avec des néons donc, mais dont les néons sont éteints. Évidemment, c'est une œuvre qui parle peut-être de Barack Obama, aussi de Donald Trump, à savoir d'une Amérique que vous aimez, ou parfois que vous aimez moins.
I've done a number of pieces using the word America.
C'est vrai que j'ai utilisé dans mes œuvres, j'ai beaucoup utilisé le mot America. James Jones, le peintre, a dit donc vous prenez un objet, vous en faites quelque chose et vous en sortez quelque chose. Et quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte, non, je ne prends pas les objets, je ne réalise pas les objets et je ne les détourne pas, mais vous pouvez utiliser et penser finalement que le mot américain est un objet en soi, et que, en fait, je l'ai pris, je l'ai tourné, je l'ai malaxé, je l'ai éteint, un peu comme si, à travers cela, je pouvais vérifier tous les changements par lesquels la société passe. Un des changements, c'est par exemple, un mot allemand, donc c'est par exemple un personnage que vous voyez dans un fond, hein, dans un paysage. Alors, vous regardez le dos, en fait. Et vous voyez le dos de gens qui regardent un paysage. Hein. Donc c'est un personnage de dos. Et moi, je voulais travailler sur cette idée, vous voyez, de voir le dos, ce dos exposé face à un paysage. Et je me suis dit, tiens, en pensant à ça, pourquoi je ne fais pas ça avec le mot américain ? Je tourne, je vous le mets de dos, et donc vous voyez le mot, mais en fait, vous voyez le mot, mais vous voyez comme si on le voyait à l'envers. Et donc l'idée, c'était que lorsque j'ai fait ça, bon, j'avais tout ça à l'esprit, mais par exemple, le problème, c'est que la lettre A reste la même lettre, même si vous la tournez, ça restera un A. Donc, en même temps,
le M aussi.
M as well.
Yes, M as well. Mais pas M le K ou le I, pas le C.
Donc, cette idée sur laquelle, oui, vous savez, l'Amérique vous regarde et vous présente son dos. Et bien, c'était l'idée derrière cette œuvre.
D'une certaine manière, votre œuvre, et ce sera ma dernière question, est une critique aussi de l'Amérique. Mais est-ce qu'on a le droit de critiquer les siens également ?
Oh, who else?
Qui d'autre a le droit de critiquer si ce n'est pas vous-même? Bien évidemment, on a le droit de critiquer les Américains.
Critiquer la communauté noire, critiquer la communauté gay.
Yes, but that's what democracy is about.
Mais c'est ça l'idée de la démocratie même, cette capacité de pouvoir avoir cet esprit critique toujours vivant et de vouloir réformer la société. Sinon, comment on fait pour avancer si vous ne critiquez pas à cette époque, et notamment à une époque où on a un président comme celui que l'on a, c'est la seule chose à faire, cette idée de critiquer, de voir ce qu'il y a derrière le nationalisme. Mais je crois que nous, citoyens, J'adore le mot citoyen, notamment comme, comme un artiste. Les gens pensent que les artistes sont des gens à part. Non, nous sommes des citoyens comme les autres. Et nous avons cette responsabilité de critiquer et de lutter contre ces forces qui sont en fait des contre-pouvoirs et qui diminuent d'une certaine façon l'idée même de démocratie.
Merci infiniment Glenn Ligon d'avoir été notre invité ce soir. L'œuvre s'appelle « Des Parisiens noirs ». C'est au Musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet 2019. Un peu en guest star, on pourrait presque dire, de l'exposition « Le modèle noir » de Jericho à Matisse au Musée d'Orsay. Dans la même période, merci infiniment d'avoir été sur France Culture ce dimanche.
Merci.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Glenn Ligon qui continue à parler en, sur France Culture. Mon deuxième invité ce soir est Jérémy Heimans, entrepreneur web, auteur d'un livre qui paraît chez Plon, Nouveau contre-pouvoir, sous-titré Convaincre, mobiliser, réussir dans notre monde hyper connecté. Vous l'avez écrit avec Henry Timms. Rebonsoir Jérémy Heimans.
Bonsoir Frédéric.
C'est un livre original parce qu'il mêle à la fois de la théorie, de la pratique, quasiment des exercices pour organiser une manifestation ou tout simplement organiser un mouvement social. Vous en avez créé plusieurs. On peut peut-être commencer par ça. Quels sont les mouvements que vous avez portés ces dernières années et que vous avez construits et qui sont évidemment à l'origine de ce livre ?
C'est vrai que j'ai lancé de nombreux mouvements sociaux en utilisant Internet pour modéliser l'ensemble. C'est vrai que maintenant, vous pouvez mobiliser les gens rapidement à une échelle bien plus importante, ce qui n'était pas possible il y a 10 ans. Donc c'est vrai que j'ai cofondé un certain nombre d'organisations. Il y en a une en Australie, GetUp, une qui a beaucoup d'membres en France, qui s'appelle Avaz, qui est une plateforme, et à partir de cette expérience, et en voyant à quel point ces mouvements sociaux complètement décentralisés qui sont de plus en plus croissants, MeToo par exemple, Black Lives Matter, les Gilets jaunes en France aussi, ils ont cette caractéristique commune, c'est-à-dire qu'ils sont complètement informels, mais aussi on peut voir ce mouvement social qu'on peut retrouver dans la culture, dans les différents médias, et on peut comprendre que cela bouge de cette façon-là parce qu'il y a une connexion qui est commune à tous.
Effectivement, vous, dans votre livre, Jérémy Heimans, vous opposez, en tout cas conceptuellement, dès le départ, le pouvoir traditionnel et ce que vous appelez le nouveau pouvoir. Très intéressant de remarquer qu'en français, c'est devenu nouveau contre-pouvoir, alors que ce n'était pas le titre en anglais. C'est quoi la caractéristique de ces deux pouvoirs ? L'un des exemples que vous donnez dès le début, c'est l'exemple de cette jeune recruteuse écossaise pour Daesh, en fait, qui prend possession très facilement, finalement, de ce nouveau pouvoir, parce qu'elle en connaît tout à fait les caractéristiques. Vous listez ces caractéristiques. Et contre elle, le gouvernement américain, qui lui n'a rien compris et qui se bat très très mal contre elle. C'est quoi les caractéristiques de ce pouvoir nouveau contre le pouvoir traditionnel.
Voilà, je commence en français pour ça. Alors, le nouveau pouvoir, c'est un outil et une philosophie pour canaliser l'énergie participative des individus dans un monde hyper connecté.
Donc des recettes aussi, vous expliquez comment ça marche.
Oui, exactement.
Ça doit être connecté.
C'est une philosophie et une méthode utile pour
mobiliser.
Pour gérer, pour mobiliser. Pour propager ces idées et tout ça. Donc, c'était un pouvoir ouvert. C'est détenu par un,
ça n'est pas la propriété de quelqu'un.
Oui, voilà. Ouais. On partage. Et l'image qu'on utilise, c'est comme un courant, voilà. Comme de l'eau, comme d'électricité. Mm. Ça devient plus en plus puissant avec la participation. Mais pour utiliser ce type de pouvoir, il faut avoir certaines compétences, certains comportements différents.
Donc, on peut parler, parce que là, c'est, effectivement, c'est très théorique. Concrètement, la personne qui nous écoute ne voit pas tellement la différence qu'il y a entre faire un tweet qui est ouvert et un tweet qui n'est pas ouvert. Cet exemple-là de la recruteuse Isis, oui. Comment est-ce que ça marche, en fait? Pourquoi est-ce qu'on a des gens qui arrivent à se saisir de ce... Le livre est plein d'exemples, à la fois politiques, mais aussi sur les marques, parce que vous parlez évidemment des aspects financiers de tout cela, d'exemples de choses qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas? En l'occurrence, sur ce cas de par exemple, de cette recruteuse. In English, maybe.
So, you raised the example earlier.
Vous avez pris cet exemple qui est intéressant. Le nouveau pouvoir, ce nouveau contre-pouvoir peut être utilisé de façon positive ou négative. Alors, cette histoire par laquelle on rentre dans le livre, c'est cette lycéenne, écossaise, qui a été une des plus importantes recruteuses de Daesh. Et comment elle a fait? Elle a créé un réseau entre filles, très intime, avec des images. Voilà, voici les différents éléments que vous devez mettre dans votre trousse de toilette et de maquillage quand vous allez faire un djihad, pour vous donner un exemple. L'idée, c'est que un monde si connecté, les gens peuvent reprendre tous ces éléments et l'adapter.
To attracting other girls from the West to join her.
Donc, et attirer des femmes de l'occidental. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est que le gouvernement américain a développé, en fait, ces réponses qui étaient complètement traditionnelles, vous savez. Et donc, il envoie des brochures avec des avions, les balançait sur les gens syriens, en disant « Non, non, Daesh, c'est pas bien, il faut pas joindre Daesh ». Et lorsqu'ils se sont lancés dans les médias sociaux, ils ont lancé un compte Twitter en anglais, disait « Pensez bien à ce que vous allez faire, ne vous lancez pas dans cela ». Et il y avait donc ce Twitter, il y avait donc
une photo de profil.
C'était pas ça, non, c'était le tampon même du département d'État qui était à Twitter.
Donc ça marchait pas.
Non, c'était pas une très bonne idée.
Mais quand on regarde votre manuel, au fond, on se dit « c'est un manuel formidable, mais qui est avec des outils qui sont ni bons, ni mauvais en soi. Vous-même, vous êtes un progressiste, vous avez défendu des causes progressistes, mais au fond, ce manuel, il peut être utilisé par quelqu'un qui va être fondamentalement contre le progrès ou extrêmement... on a évoqué le terrorisme, mais c'est vrai aussi pour des mouvements qui seraient racistes ou qui seraient antiféministes, misogynes, etc.
Et c'est justement le défi que l'on retrouve au sein de ce livre. Ceux qui sont pour la vérité, qui essaient de lutter contre ceux qui sont contre le climat, le changement climatique, qui n'y croient pas, les sceptiques, c'est justement qu'il faut travailler. Il y a donc une forme d'aversion, de façon de défendre des versions de la vérité. Ils disent qu'ils sont rationalistes, qu'ils ont la vérité en main. Donc, ce qu'il faut, c'est justement comprendre comment ils mobilisent autour de cette idée. Je crois que, et c'est l'erreur, vous savez, on en parlait sur Christchurch, justement au début, c'est les idées les unes contre les autres. Pourquoi les suprémacistes l'utilisent tellement bien? Eh bien, parce qu'ils ont compris. Mais maintenant, je reste quand même très optimiste parce que je crois de nombreux mouvements, par exemple Black Lives Matter, ont très bien compris comment utiliser tout ce réseau en se rendant compte que grâce à leur mouvement et grâce à leur mise en réseau, ils ont pu rendre ce sujet extrêmement important, et le sujet est passé dans les premiers sujets traités aux États-Unis. Et je pense que c'est pareil en France.
Alors vous avez aussi quelque chose de très intéressant, c'est que vous montrez d'ailleurs comment les élections des derniers présidents, que ce soit en France ou aux États-Unis, sont marquées par l'utilisation, la compréhension ou pas de ces outils. Et c'est intéressant de remarquer qu'à la fois et le président français Macron, et le président Obama, et le président Trump ont pleinement compris ces outils. Néanmoins, à un moment donné, comment est-ce qu'on réconcilie ce que vous appelez ces nouveaux pouvoirs décentralisés, que tout le monde peut se réapproprier? On le voit très bien avec Black Lives Matter. Comment est-ce qu'on transforme en action politique? Il y a deux problèmes. Il y a quand vous mobilisez des gens sur Havas, ils signent comme ça une petite pétition sur un coin de table, dans un mail qui passe, mais rien ne dit qu'ils vont vraiment s'engager. Et puis, à un moment donné, est-ce qu'on peut finir par créer des vrais mouvements sociaux qui permettent un vrai leadership? Vous racontez dans le livre comment tous les gens qui ont été portés au pouvoir par ce type de nouveau pouvoir, à un moment donné, ils se heurtent à la question du leadership, de l'exercice du pouvoir qui, lui, est un pouvoir traditionnel. Right. Comment on fait?
Alors, on a l'histoire des Gilets jaunes, par exemple. Un mouvement de nouveau de contre-pouvoir, il y a de nombreux leaders, et c'est ce qui l'empêche totalement de se développer, de prendre plus d'ampleur, parce que chacun peut être à la tête de ce même mouvement. En même temps, cette fragmentation de plusieurs leaders rend la chose d'autant plus difficile pour les Gilets jaunes d'aller plus loin. On voit bien que cette fragmentation du mouvement le dessert. Donc il y a ce choix. Soit ces mouvements essaient de se transformer en une institution, mais lorsqu'ils font cela, eh bien, ils perdent cette vigueur, cette énergie qui a permis de la faire naître, ou ils peuvent faire ce que, ils peuvent être un relais avec les institutions. C'est un peu l'histoire des Tea Party aux États-Unis. Vous savez, ce mouvement d'extrême, enfin, de droite radicale, et qui est rentré dans le gouvernement, qui est devenu beaucoup plus centralisé. Et ils ont créé des alliances au sein des institutions pour s'assurer que cette énergie qui les avait créées était traduite dans les différents processus, par exemple les primaires au sein du mouvement du groupe républicain. Donc, c'est des stratégies qu'il faut en fait développer, créer des intersections. Et ce que nous disons, c'est que dans la plupart des cas, les institutions comprennent bien ce qui se passe, mais des gens comme nous, des gens normaux, et les politiciens doivent comprendre ce nouveau contre-pouvoir. Ces nouvelles habiletés, ces nouvelles compétences qui sont nécessaires pour se développer.
Certains penseurs, je pense notamment à Michael Gladwell, ont montré, ou en tout cas ont essayé de dire, qu'il y avait ces mouvements sociaux, ces mobilisations Internet étaient assez superficielles. Et ils comparaient justement, on évoquait tout à l'heure la question noire, le mouvement autour de Martin Luther King, c'était mobilisation de terrain, dangereuse, profonde, où les gens étaient extrêmement engagés, alors que signer une pétition ou même envoyer un peu d'argent sur un site, c'est très, au fond, assez superficiel comme type d'engagement. Mm-hmm. Est-ce que vous craignez que les réseaux sociaux soient moins pertinents pour réellement permettre aux gens de se mobiliser ?
À mon sens, c'est une erreur, ce que l'on peut appeler un militantisme bon ton. Généralement, les mouvements commencent comme ça, avec quelque chose de très fort, enfin, une petite échelle, mais un mouvement très fort. Alors, donc, par exemple, c'est ce que l'on dit dans le livre. Peu importe la communauté que vous essayez de créer dans ces mouvements, l'idée, c'est d'avoir les gens avec vous, avoir les gens qui se compromettent et faire grandir, croître cet engagement. Tout le monde ne doit pas devenir le militant qui va devenir président, vous voyez, ou qui va passer, ou alors même pas président, mais qui va aller devant la Maison Blanche et qui va critiquer, qui va être là tout le temps. Chacun peut jouer un rôle à sa façon, simplement en mobilisant et en transmettant une idée. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Vous savez, c'est un militantisme qui se retrouve au sein du mouvement où on fait passer l'information. Il y en a qui sont plus impliqués, il y en a qui sont plus extrêmes. Vous avez un peu tous les éléments au sein d'un même mouvement.
D'ailleurs, vous donnez la méthode pour comment est-ce qu'on passe d'un lien faible justement à un lien fort. Et vous dites, plus on a une base vaste, plus on peut avoir des militants forts. Et d'ailleurs, c'était un peu la méthode d'Avaz qui, pousse les gens à s'impliquer de plus en plus. Concrètement, ce qui est très intéressant aussi dans ce livre et qui est un peu le paradoxe, c'est que vous parlez évidemment, on l'a dit, de pouvoir politique. Vous évoquez les présidents américains et français. Et puis, vous parlez aussi d'entreprises. Il y a beaucoup d'exemples liés à des marques et des entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que parmi les immenses, disons, barons de cette nouvelle culture, et notamment les barons de la tech, on parlait de Facebook, vous citez aussi le cas d'Uber, et ben vous dites que finalement, eux, ils sont plutôt du côté du pouvoir traditionnel et pas de ce nouveau pouvoir, parce qu'on est sur des formes de monopole et de conduite très dure, et en même temps, vous prenez leur utilisation, c'est-à-dire que pour exister sur ce nouveau pouvoir tel que vous le décrivez, il faut jouer avec Facebook, il faut jouer avec Google. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ce paradoxe ? Ils sont sur le pouvoir traditionnel, mais on a besoin d'eux.
C'est justement le paradoxe. C'est justement ce qu'on essaie de décrire, vous savez, dans le livre. La cooptation, c'est-à-dire que on peut analyser, on peut trouver cette soif de participation. Donc, sous ces pouvoirs traditionnels, on arrive à comprendre le contenu. Mais si on essaie de comprendre au niveau du pouvoir quelle est la relation, par exemple chez Facebook, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas une valeur économique qui est partagée, la façon dont la chose est créée. Et surtout, il n'y a pas de transparence, on ne connaît pas du tout son algorithme. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et ce que l'on dit dans le livre, c'est les ceux qu'on coopte sont les plus vulnérables parce que ces communautés qu'ils créent se retournent contre eux. Par exemple, on l'a vu avec Uber, on l'a vu avec Facebook. Au début, ce sont des révolutions qui vont contre ces modèles du pouvoir traditionnel et deviennent en fait des valeurs qui sont reprises dans ce contre-pouvoir. Mais les gens qui se mobilisent ne se voient plus comme des usagers ou comme des acteurs, mais comme des citoyens, parce que ces plateformes sont tout aussi puissantes que des États. Et nous, alors, nous devons les comparer, les comprendre de cette façon, comme nous voyons le gouvernement, nous devons les pressuriser, nous devons nous organiser contre elles. Et je crois que c'est cela qui va se dessiner dans les 5-10 années à venir, puisque la colère va aller croissante, et on va voir à quel point ces plateformes ne sont pas tenues responsables de ce qu'elles font. On voit également voir se développer une modélisation contre et mobilisation contre ces plateformes, en disant voilà ce que vous avez fait de nous, voilà ce que vous avez fait de moi, je ne veux pas.
Peut-être pour terminer, Jérémy Heymans, je rappelle que vous venez de publier Nouveau contre-pouvoir. Au fond, ce livre, c'est un livre sur le pouvoir, la redistribution du pouvoir. Le pouvoir va être distribué autrement. Et peut-être un des mots importants qui le résume, c'est l'empowerment. En français, on dirait redonner du pouvoir aux gens. C'est moins finalement le contre-pouvoir que justement cet empowerment.
Well, that's right. So I think
exactement.
It's important that we use new power, not just
je crois qu'il faut utiliser ces contre-pouvoirs non seulement pour tout démolir, mais surtout pour construire des choses. C'est intéressant que vous parliez d'Obama et de ces exemples. C'est vrai qu'ils ont utilisé très bien ce pouvoir pour arriver à être élus. Même pour Macron aussi, c'est pareil. Ils ont eu toute cette mobilisation digitale, cette façon qui allait contre le pouvoir établi, traditionnel, pour devenir en fait des présidents. Mais après, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils n'utilisent pas ce contre-pouvoir, et pas de façon constructive en tout cas. Et donc, alors si vous êtes d'accord ou non avec leur politique, on ne peut pas critiquer et dire qu'ils ont rendu leur politique plus participative, malheureusement. Et c'est difficile donc de trouver une solution. Par exemple, entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, ils n'arrivent pas à trouver une réponse. On dit, bon, bah, très bien, vous avez lancé En Marche, c'était un mouvement, et maintenant, vous la vouliez, vous l'avez laissé de côté, vous ne réinvestissez pas dans ce mouvement. Et c'est une des critiques que l'on peut trouver. Et je crois que l'une des réponses va être simplement pas de trouver ce nouveau pouvoir, ce contre-pouvoir, mais trouver des relations plus importantes, plus ancrées avec des gens, avec des individus. Et nous essayons dans ce livre de montrer quelles sont les voies possibles.
Le livre s'appelle « Nouveau contre-pouvoir », le mot « contre » est entre parenthèses, « Convaincre, mobiliser et réussir dans notre monde hyperconnecté ». Il est signé Henry Timms et Jérémy Heymans, et ça vient de paraître en français chez Plon. Les deux traductions ont été assurées par Paloma Goulemot. Soft Power, dans un instant, seconde partie de l'émission, avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique, Zoé Svel ce soir, où va Google. Et dans un instant, Zoé, votre invité innovation à 20h.
La journaliste Judith Duportail nous parle de son livre extrêmement bien relayé dans la presse internationale, L'amour sous algorithme, paru aux éditions Goutte d'Or, qui tente de comprendre ce qui sous-tend l'algorithme de Tinder, cette application de rencontre qui est aujourd'hui la plus téléchargée dans le monde et la plus utilisée en France.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après un nouveau morceau d'Abdel Malik sur France Culture.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un homme noir et sa femme enceinte qui rêvent un cauchemar qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Avec des dreadlocks qui valsent avec Pénélope, mon frère.
c'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via internet. C'est l'Aquarius en canoë de fortune qui autobus ses futurs noyés qu'on a en fume. C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satyres qui résume la tragédie à venir. C'est Hélène avec des tresses ou une afro qui suppliante demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, que son embarcation est ou non un moteur Renault.
On meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, qu'on sait tout. Comme on meurt, on pleure, on bonhomme, on bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, qu'on sait tout.
Mira, 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 mira.
À l'instant, Abdelmalik, La Vida Negra Aquarius avec Wallen et Matteo Falcone sur France Culture, juste avant Zoé Svez.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Judith Duportail.
Bonsoir.
Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, membre de l'excellent collectif des Journalopes, et vous publiez cette semaine « L'amour sous algorithme » aux éditions Goutte d'Or. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui est à la fois une enquête et puis un récit personnel. C'est sur le, disons, le modèle de la narrative non-fiction. C'est un genre plutôt anglo-saxon. Et l'objet de ce livre, c'est une application que les Français utilisent beaucoup qui s'appelle Tinder. Pourquoi est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez eu envie de faire ce livre ?
L'idée est venue de faire ce livre quand je découvre un matin, tout simplement en lisant un article au hasard, que nous étions tous notés secrètement sur Tinder selon notre désirabilité. Et que cette note était donc demeurait mystérieuse et que nous n'avions pas le droit de connaître notre propre note. Donc je lis cet article et je regarde mon téléphone et je me dis mais mon téléphone est en train de m'évaluer maintenant, peut-être plusieurs fois par jour, sur ma désirabilité. Là je me dis il faut que j'ai envie d'en savoir plus. Personnellement pour moi ça m'évoque toute une ribambelle de mauvais souvenirs, notamment un où quand j'étais adolescente, il y avait un garçon de ma classe qui avait noté toutes les filles de la classe. Et moi, je me souvenais très bien que j'avais eu un 5 sur 10 parce que j'étais sympa, mais un peu trop grosse. Et ce mec s'appelait Tristan. Et je me dis, j'ai cet imbécile de Tristan en BD dans mon téléphone, quoi. Enfin, du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus.
Voilà. Alors justement, très intéressant parce qu'on parle ici de l'application Tinder. Tinder, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne ? C'est une application qui s'est clairement imposée comme le leader des applications de rencontres. Tinder est une application qui appartient aujourd'hui au groupe Match et qui possède aussi d'ailleurs d'autres sites ou applications de rencontres. Et c'est devenu un leader. Pourquoi ? Quel est le principe de Tinder ? Et pourquoi est-ce que finalement ça vous choque de savoir que vous avez un indice de désirabilité ? C'est quoi la promesse de Tinder ?
Tinder, du coup, c'est une application de rencontre très simple et dont la simplicité a fait le succès, où vous voyez des profils défilés qui sont un peu présentés comme des cartes. Donc moi, je suis une femme hétérosexuelle, donc je vois défiler des profils d'hommes. Et si la personne me plaît, je swipe, donc je balaye l'écran vers la droite. Et si la personne a fait pareil pour moi, il y a un match, ça veut dire qu'on a le droit on peut se parler. Et si le mec me plaît pas, je le balaye vers la gauche et il ne se passe rien.
Et tout ça est basé sur la géolocalisation aussi, théoriquement.
Alors, c'était ainsi qu'ils se sont présentés quand ils se sont lancés, disant qu'ils étaient une application qui facilitait les rencontres de manière géolocalisée. Ce dont je me rends compte en faisant mon enquête, c'est que la géolocalisation, finalement, a assez peu d'importance. Puisque nous sommes notés sur notre désirabilité, ce qui a plus d'importance, c'est de rester avec des gens de notre ligue, entre guillemets. Nous sommes évalués sur notre désirabilité parce que Tinder estime que nous avons plus de chances de matcher avec des personnes du même niveau que nous. Pour le dire très schématiquement, les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, les moyens avec les moyens. Moi, ce qui me pose problème avec cette question de désirabilité, c'est que, à mes yeux, c'est comme si je rentrais dans un bar ou dans une fête et que les hommes qui étaient considérés trop désirables pour moi ou pas assez désirables pour moi, tout d'un coup, je n'avais juste même pas le droit de les voir. C'est comme s'ils avaient été effacés de mon univers. Et ça, moi, ça me pose problème. Ça veut dire que tout ce qui fait mon sens de l'humour, mon style, ma répartie, tout ça, c'est comme si ça n'avait plus aucune importance.
Ce fameux indice de désirabilité, ça s'appelle ce qu'on appelle un Elo score. Oui. C'est en fait une formule mathématique.
En fait, c'est une cote que vous avez qui évolue. Et dans le monde des échecs, pour expliquer assez simplement, si vous jouez une partie d'échecs et que vous gagnez contre quelqu'un d'excellent, vous gagnez des points. Mais si vous perdez contre quelqu'un qui est considéré moins bon que vous, vous perdez des points. Et donc Tinder s'était inspiré de ce classement pour faire pareil. Si vous matchez avec quelqu'un qui a beaucoup de succès, vous gagnez des points. Mais si quelqu'un de moche ne vous matche pas, du coup, vous en perdez.
Et alors effectivement, ce que vous pointez raconter aussi, c'est que, et c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, c'est qu'on est évidemment dans une immense opacité de la part de Tinder. Vous avez enquêté, vous les avez sollicités plusieurs fois, sur cette question du fameux Elo Score, on refuse de vous répondre.
Bah, c'est même plus loin que ça. Ça veut dire qu'on accepte de me parler. Par exemple, dans le livre, je raconte une interview avec Sean Rad, le cofondateur de Tinder. Et il n'accepte de me parler que si je promets, enfin, ces agents de communication, de ne même pas mentionner l'existence du Elo Score. J'ai même pas le droit d'évoquer cette question. Et plus tard, après, quand j'essaie d'évoquer cette question avec eux, c'est impossible. C'est le mur direct.
C'est quand même un petit peu, finalement, le cœur de leur activité et aussi de la manière dont ils font de l'argent. Pourquoi ? Parce que Tinder est une application gratuite, mais on peut, en revanche, améliorer sa visibilité sur l'application avec des espèces de packages. Et donc, en réalité, on va payer pour sortir d'un endroit de non-désirabilité, en réalité, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme si on évoluait tous. Enfin, l'image qui me vient en tête, moi, c'est comme si on était tous sur un grand bateau. Puis il y avait l'étage des moches, l'étage des moyens, l'étage. Puis de temps en temps, ben, vous avez le droit d'acheter un petit ticket pour aller dans les salons de première classe. Vous restez une demi-heure, puis après vous redescendez, quoi.
Et ça, c'est quelque chose que intuitivement, quand on est un utilisateur de cette application, on peut sentir, on se doute. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la promesse de Tinder. Quelle est finalement la promesse pour ces utilisateurs et en quoi est-ce que c'est finalement, disons, malhonnête d'appliquer ce fameux Elo Score ?
Pour moi, la question qui se joue ici, elle est intéressante parce que Tinder a une image d'entreprise assez progressiste, finalement. Prend position dans les débats de société, défile pour la Gay Pride, le jour du 8 mars fait des campagnes pour l'égalité salariale. Et finalement, quand on fouille et quand on accède à des documents qu'ils ont eux-mêmes rédigés, qui décrivent des systèmes de matching ou leurs propres entrailles, ce sont des valeurs bien différentes qu'on trouve décrites ici.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites cette longue enquête, vous essayez, comme vous le dites, d'entrer en contact plusieurs fois avec l'équipe de Tinder. Vous réussissez à obtenir 800 pages de données sur votre utilisation propre de Tinder, qui vous enseigne beaucoup de choses sur l'utilisatrice que vous êtes, mais pas tant que ça sur l'algorithme. Et finalement, et c'est un petit peu le cœur de ce livre, vous ne parvenez jamais à mettre la main sur l'algorithme, mais vous finissez par trouver une information qu'en fait, on aurait tous pu consulter depuis assez longtemps. C'est le brevet. Qu'est-ce que c'est que ce brevet ?
Tout à fait. Le brevet de Tinder, donc c'est un document public, absolument tout le monde aurait pu mettre la main dessus. Un document de 27 pages écrit en caractère 8 qui décrit, donc c'est assez amusant à regarder, hein, qui décrit par exemple le swipe, du coup pour pouvoir le déposer auprès de l'Office des brevets américains pour que ça devienne leur propriété intellectuelle.
Le fameux fait de balayer l'écran.
Voilà,
sur la
exactement,
droite, sur la
le
gauche.
Fameux souhait de balayer l'écran. Alors il faut faire attention parce qu'un brevet, c'est pas une description exacte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les serveurs de Tinder, mais c'est la meilleure façon d'aller au plus proche de l'état d'esprit d'une entreprise. C'est comme
sa
une feuille de route.
Finalement.
Voilà, c'est ça. C'est un peu comme une feuille de route ou une note d'intention ou ouais voilà, sa philosophie exactement.
Et qu'est-ce que vous découvrez alors dans ce brevet ?
Alors, du coup là, on découvre que Tinder se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre attractivité, mais vraiment pas seulement, aussi sur notre intelligence, en lisant nos messages, en regardant si on écrit des mots compliqués avec plusieurs syllabes ou pas, en faisant passer nos messages à la moulinette de tests inventés par l'armée américaine pour deviner le niveau d'études d'un locuteur. Sur notre niveau d'études et notre niveau de revenus, qui sont des informations faciles à avoir hein, quand on a nos profils, quand on a nos informations Facebook.
Parce qu'effectivement, vous pouvez vous connecter par Facebook.
Oui, dans la majorité des cas, d'ailleurs, ça se passe comme ça. C'est compliqué de se connecter hors Facebook et d'être évalué sur tous ces critères-là. Donc, intelligence, richesse, niveau d'éducation. Et on découvre aussi que Tinder se réserve la possibilité d'évaluer les hommes différemment des femmes. Et dans ce brevet est donné un exemple très précis de deux utilisateurs fictifs qui s'appellent Harry et Sally. Et Harry a fait des bonnes études et gagne beaucoup d'argent. Et du coup, le serveur lui attribuerait des points bonus, alors que Sally, au contraire, aurait des points malus. Dans ce brevet est décrit un système de matching pour que, quelque part, l'homme soit toujours dominant sur la femme, que ce soit en termes d'âge, un peu plus âgé, d'argent ou de savoir, qu'il ait fait davantage d'études.
Et inversement, une femme plus âgée qui ne correspond plus donc à cette relation hétérosexuelle assez normée telle que l'a décrit Tinder, donc avec un homme qui serait, disons, mieux diplômé, qui aurait un meilleur revenu et qui serait dans la relation idéale mise en contact avec une jeune femme plus jeune, la femme, je sais pas, de 34 ans, qui est célibataire sur Tinder et qui gagne bien sa vie, elle est cotée comment ? Comme vous, par exemple ?
Alors, je peux pas vous donner une réponse cash à cette question en vous disant elle aura 272 sur 430. Enfin, mais en revanche, ce qu'on peut dire à la lecture de ces documents, c'est que elle sera mise en relation avec des hommes qui auront toujours quand même quelque chose en plus qu'elle. Et ça favorise, si vous voulez, un modèle traditionnaliste du couple. Ouais.
qui n'est évidemment pas celui que Tinder défend publiquement.
C'est ça, c'est là pour moi où se pose l'immense question de la cohérence ou même de la sincérité. Moi je me définis comme féministe, donc je trouverais ça regrettable, mais peut-être que le monde fonctionne comme ça. Peut-être que les hommes aiment les femmes plus jeunes et les femmes les mecs plus vieux. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas être transparent? Et dans ce cas, au moins, on pourrait avoir le choix, oui ou non, d'adhérer à ces valeurs et de se créer un compte ou pas.
Justement, ouais. C'est la grande question, celle de la transparence. Il y a un grand mouvement aujourd'hui qui demande la transparence des algorithmes de sites qu'on pratique beaucoup, mais sur lesquels on n'est pas obligé d'aller. Ça va de Tinder à Facebook. Il y a des campagnes qui aujourd'hui prônent hashtag delete Facebook, finalement le fait de supprimer Facebook. Vous, aujourd'hui, vous conseilleriez quoi à quelqu'un qui utilise Tinder? De militer pour avoir l'algorithme, de le supprimer ou de simplement être conscient?
Peut-être tout à la fois. Ouais, c'est sûr. Moi, en tout cas, en tant que journaliste et même en tant qu'utilisatrice, je pense qu'il nous faut militer pour davantage de transparence. Et de l'autre côté, si on veut être un utilisateur de Tinder, oui, en tout cas, d'être conscient de tout ce qui se trame et de tout ce qui se joue, de même toutes les techniques qui sont employées pour développer une forme d'addiction chez nous, avec le principe de la récompense aléatoire qui a été étudié notamment par des chercheurs aux États-Unis qui ont développé le concept de design de l'addiction pour dire que si on peut pas s'empêcher de retourner sur Tinder 4 à 5 fois par jour, c'est pas parce qu'on est faible moralement aussi, c'est parce que c'est très très bien fait pour qu'on ait envie d'y retourner régulièrement. Donc oui, si bon, c'est des personnes qui ont envie de rester sur Tinder, je leur conseillerais de lire un maximum de choses pour que l'asymétrie entre le niveau de sophistication de Tinder et nous-mêmes soit un petit peu moins abyssale. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, même au-delà de l'aspect algorithmique, révélation journalistique. C'est aussi de raconter l'espèce de détresse ou de distance ou de froideur dans lesquelles je me suis retrouvée, quand même en étant tombée amoureuse sur Tinder. Et du coup, j'espère dire aux autres femmes et même aux autres mecs que ouais, ils sont pas les seuls, je pense, à être dans une espèce de désarroi. Tinder, c'est l'application la plus rentable de l'Apple Store aujourd'hui. Et faut pas perdre de vue que ces applications, notre solitude ou notre galère sentimentale, c'est un élément indispensable de leur business model. Et du coup, se poser la question, parfois, si on se sent minable, si on se sent misérable, si on est là en train de swiper avec un sentiment de vide, se demander à qui ça profite, parce qu'en fait, il y a quelqu'un à qui ça profite.
Merci beaucoup Judith Duportail pour ce livre « L'amour sur l'algorithme » qui effectivement est à la fois une excellente enquête journalistique et un très beau récit qui invite aussi à réfléchir aux effets que produit justement l'utilisation de ce type d'application sur finalement notre moi profond. Merci beaucoup, c'est « L'amour sur l'algorithme » et c'est paru aux éditions Outdoor le 21 mars dernier.
Soft Power, abonnez-vous au podcast sur le site franceculture.fr.
Et tout de suite, c'est l'heure du club de la presse numérique de Soft Power, sans Frédéric Martel qui nous a quittés un peu plus tôt que d'habitude, mais en présence de deux habitués, Emmanuel Paquette de L'Express, bonsoir.
Bonsoir Zoé.
Et Amaël Guiton de Libération.
Bonsoir.
Alors ce soir, nous parlons de Google. Google, le géant du web, principalement connu pour son moteur de recherche, mais qui, on le sait, investit depuis plusieurs années dans différentes activités. Et cette semaine, Google le confirme à deux titres. L'entreprise déjà a annoncé qu'elle allait commercialiser une console de jeu pas physique, hébergé dans le cloud. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une console et d'investir dedans chez vous pour jouer. Et puis par ailleurs, c'est une autre information de taille, Google a écopé d'une amende de 1,5 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité contextuelle. Alors, où va Google? On se pose la question avec vous, tous les deux, Emmaël et Emmanuel. Alors déjà, peut-être, est-ce qu'on peut commencer par parler de cette fameuse console qui s'appelle donc Stadia et qui est présentée comme un service de jeux vidéo à la demande? Concrètement, pour essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche peut-être, Emmanuel Paquette?
En fait, c'est assez simple. C'est un équivalent de Netflix pour le jeu vidéo. C'est-à-dire, on appelle ça du cloud gaming. C'est-à-dire qu'en réalité, le jeu, vous ne le possédez pas. Il n'y a pas de DVD physique entre vos mains. Il est logé simplement sur des serveurs distants de Google, sur lesquels vous pouvez accéder à peu près depuis, normalement, n'importe quel terminal. Et à partir de là, de pouvoir jouer avec n'importe qui. Alors, l'idée, c'est de mettre un abonnement en place. Alors, on n'a pas encore le tarif. Google a dit qu'il serait dévoilé là, dans les mois qui viennent, durant l'été, avec un lancement aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, et avec un catalogue pareil qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc il va falloir voir s'il y a des gros titres, de gros éditeurs, ce qu'on appelle des triple A. Donc ce sont les gros titres qui aujourd'hui drainent la majorité des plus gros joueurs. Donc là c'est encore une question que tout le monde se pose, à savoir la profondeur du catalogue de Google, et puis l'accessibilité en termes de prix et puis en termes de puissance, parce que comme vous l'aviez dit, on ne sait pas exactement ce dont il s'agit. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudra pas quand même acheter au moins minimum de matériel pour pouvoir s'y connecter? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il faudra pas avoir un ordinateur et avec une réelle puissance de l'ordinateur, notamment avec une très très bonne carte graphique, donc ce qui pourrait ça un petit peu tempérer un petit peu tout ce qu'on peut voir autour de ce nouveau service et toutes les envies que ça peut générer.
Alors justement, peut-être Amel Guiton, pourquoi est-ce que Google annonce ça maintenant alors qu'on a finalement si peu d'informations?
De toute façon, ils ont quand même commencé à faire des tests. Je crois que c'est depuis l'automne 2018. Il y a possibilité pour des joueurs américains de jouer à Assassin's Creed en fait sur ce modèle-là.
Assassin's Creed qui est un gros jeu.
Et je pense qu'effectivement, de toute façon, ils ont déjà donné quand même quelques signes de leur volonté de se positionner là-dessus. C'est vrai que pour le moment, c'est encore assez flou. Enfin, en tout cas, la promesse, c'est quand même l'idée de pouvoir jouer effectivement à des jeux très élaborés depuis à peu près n'importe quel terminal, donc smartphone, ordinateur, tablette ou smart TV, si j'ai bien compris. Alors ils ont annoncé qu'ils allaient aussi commercialiser une manette, mais il y a quand même l'idée d'abaisser énormément le coût d'entrée dans l'univers de ce type de jeu vidéo, avec quand même un peu, ce qu'on sent venir, c'est l'idée à la fin de plus de consoles du tout, in fine. Alors pour le moment, c'est vrai que c'est ce que disait Emmanuel, ça reste assez flou à la fois sur le modèle économique, sur le catalogue. Ça pose aussi la question de la connectivité tout de même, parce que même si l'idée au fond est de mettre la puissance de calcul sur des serveurs distants pour que tout le monde puisse, le plus de gens possible puissent jouer à distance, a priori dans des zones à faible connectivité, ça risque quand même d'être compliqué. Mais c'est ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est que ils sont pas tout seuls sur cette histoire-là. Je crois qu'il y a aussi Microsoft qui a des choses dans les tuyaux, mais c'est vraiment l'idée de remettre la puissance de calcul à la périphérie, qui est pas du tout le modèle de départ de l'informatique individuelle, où justement on mettait de la puissance de calcul dans les mains de tout le monde. Et qui n'est pas non plus, entre guillemets, le modèle un peu traditionnel de l'Internet, dont je trouve que même philosophiquement, ça pose des vraies questions.
C'est un changement de paradigme.
Ouais, moi j'ai un collègue à Libération qui est persuadé que c'est d'une certaine manière, ça devient de la minitélisation du jeu vidéo aussi, cette affaire-là.
Mais alors justement, vous avez dit peut-être à terme la fin de la console. Est-ce que, par exemple, les acteurs traditionnels, PlayStation, Xbox, etc., ont des raisons de s'inquiéter? Puis il y a quand même un confort de jeu auquel ce qu'on appelle les gamers tiennent, ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Donc, est-ce que ça pourrait être la fin de ces acteurs traditionnels, donc les forcer à s'adapter? Et puis, peut-être aussi, tout simplement, qui veut toucher Google avec ça? Des gens qui jouent pas encore? Des gens qui pourraient jouer? Des gens qui jouent?
Alors pour la première question, en fait, c'est déjà c'est pas une tentative nouvelle, hein, ça existe depuis maintenant 2010. Il y a eu une grande start-up qui s'appelait OnLive, qui a été créée aux États-Unis, dont le pari justement était de tuer tout ce qui était console de jeu pour remplacer justement le jeu directement via un accès internet et un abonnement mensuel sur lequel on pouvait payer et puis accéder à des gros titres. Pour le coup, à l'époque, il y a vraiment des grands titres de grands éditeurs, les Américains, notamment Electronic Arts, Activision et d'autres étaient présents. OnLive aujourd'hui n'existe plus. La société a fait faillite. Les brevets ont été rachetés par Sony en 2015. Il y a eu une autre grosse tentative d'une société qui s'appelait Gaikai, qui a très bien fonctionné à un certain moment, et pareil, qui a été rachetée par Sony et qui a été intégrée aujourd'hui dans la PlayStation, puisque pour les utilisateurs de PlayStation, il y a un service qui s'appelle PlayStation Now, qui permet justement de s'abonner et d'accéder à du jeu. Alors c'est plutôt du bas de catalogue, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des jeux qui sont assez anciens, justement pour pas tuer le marché des DVD à 70€ qu'on peut acheter dans le commerce. Donc l'idée, c'est de créer un nouveau marché avec les anciens jeux aujourd'hui. Soit vous les achetez un peu en deuxième main ou troisième main à des prix qui sont relativement accessibles, ou vous pouvez vous abonner à un service comme celui-là. Donc c'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de tentatives aussi en 2012 en France avec les opérateurs télécoms, notamment Bouygues Télécom et SFR, qui avaient intégré dans leur box des systèmes de location de jeux à distance, notamment justement en signant des accords avec des grandes plateformes de distribution de jeux. Ça a été plutôt un échec. Bouygues Télécom a fermé son service, SFR également. Donc aujourd'hui, on voit une nouvelle tentative de la part de géants d'Internet, du coup, puisqu'on a parlé, comme le disait Amael, on a parlé de Google, on parle de Microsoft, on parle d'Amazon aussi. Donc on va voir ces gens-là, voir s'ils arrivent à trouver une place là où les opérateurs télécoms n'ont pas réussi à percer.
Amael Guiton, justement, oui, sur le fait que ce soit des acteurs de ce type-là qui investissent aujourd'hui, on a vu que ça n'a pas très bien marché. Et surtout, qui y vise ?
Alors, Google, comme d'habitude, y va dans l'effet d'annonce et avec énormément d'ambition, parce que je crois que leur communication, c'est de dire, eux, ils visent un public potentiel de 2 milliards de joueurs. Donc, y compris, effectivement, les gens qui n'ont pas forcément de console, qui ne comptent pas forcément investir dans une console de jeu, mais qui peuvent être, je ne sais pas, comme moi, par exemple, qui peuvent de temps en temps jouer sur leur ordinateur. Et du coup, effectivement, ça peut créer un public au départ peut-être plus distant,
plus éloigné
vis-à-vis de ces, entre guillemets, grosses productions, mais qui pourrait rentrer dedans par ce biais-là. Les acteurs traditionnels, il y a eu un effet assez immédiat, hein, c'est que les cours des actions Nintendo et Sony ont accusé une chute le lendemain de l'annonce. Donc on voit bien quand même que tout ça, bon, alors après les marchés peuvent aussi être assez irrationnels, mais voilà, il y a quand même aussi cet aspect-là. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir comment finalement le modèle initié avec Spotify, Deezer, etc. dans la musique, c'est d'abord répliqué effectivement dans l'audiovisuel avec des plateformes comme Netflix et commence peu à peu à grignoter d'autres secteurs, c'est-à-dire un modèle qui n'est plus du tout celui de l'achat, mais clairement qui est celui de la location. Et ça effectivement on voit bien qu'aujourd'hui ça tend à s'étendre, et c'est pas très étonnant pour le coup que ce soit les grands acteurs du numérique qui veulent se positionner sur ce marché-là en n'ayant pas entre guillemets à défendre leur beefsteak, qui aillent dans cette direction, même si, bon, pour le coup, Microsoft a aussi manifestement décidé de prendre le train en marche et a annoncé qu'ils allaient annoncer justement des choses de cet ordre-là assez prochainement.
Et alors justement, peut-être si on essaye de pousser un peu la question un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut imaginer que les fameux acteurs, les gens qui produisent des jeux vidéo, vont répondre à cette demande Google ? On a peu d'informations donc sur le modèle économique. Il faudrait qu'ils disposent d'un catalogue. Est-ce que les gens qui produisent des jeux aujourd'hui ont intérêt à être présents sur ce catalogue ?
Bah, normalement, ceux qui vendent encore des gros titres, ce qu'on appelait les AAA, n'ont pas intérêt, puisque aujourd'hui un DVD se vend à 70€ dans le commerce. Donc 70€ qui n'arrivent pas directement dans la poche de l'éditeur, hein, puisqu'il y a des intermédiaires, il y a le revendeur, etc. Mais du coup, une valeur faciale qui est extrêmement importante. Donc détruire ça pour un abonnement à, disons, 9,99€ par mois, un peu comme l'équivalent de Netflix, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il va falloir après le répartir avec tous les éditeurs qui seront présents sur la plateforme. Donc, sauf, encore une fois, si c'est du fonds de catalogue, donc des anciens titres et pas les nouveaux, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs sur Netflix, hein, puisqu'on n'a pas des choses récentes sur Netflix, sauf les créations de Netflix en tant que telles, on n'a que du fonds de catalogue de séries et de films. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est surtout le modèle économique de Google reste aujourd'hui à 90%, 95% la publicité. Et donc, lors de la présentation du service, l'idée, c'était de montrer que tout ça était activable via YouTube. Donc, on pouvait notamment voir quelqu'un jouer sur YouTube. Donc, l'idée, c'est de créer aussi des communautés de joueurs qui se regardent jouer, avec de la publicité contextuelle à côté. On y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie, hein, sur cette publicité contextuelle, donc qui est liée à la partie de jeux vidéo qu'on peut voir. Et donc, pour Google, l'idée, c'est de créer une communauté autour de YouTube, pas forcément que des joueurs, mais aussi des spectateurs. Qui dit spectateur dit publicité, qui dit spectateur dit souvent aussi droit, puisque derrière, sur les jeux massivement en ligne, on peut aujourd'hui accéder on peut voir des retransmissions de grands jeux vidéo avec des équipes de professionnels, et pour ça, eh ben, on est prêt à payer, ou en tout cas à avoir de la publicité pendant qu'on regarde ce type de jeu.
On va parler évidemment tout de suite de publicité contextuelle et de cette amende donc que s'est pris Google, mais une dernière question quand même qui se pose au regard du fait de ce que vous disiez tout à l'heure à Maël, on va vers un modèle de plus en plus de Netflix, et là, pour une expérience qui serait plutôt correcte pour pouvoir jouer en ligne dans le cloud, eh ben, on va avoir une console qui pourrait consommer énormément de bande passante, on est d'accord, comme c'est déjà le cas pour des sites de streaming. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, et ça fait partie des menaces qui planent, on ait des fournisseurs d'accès qui pourraient limiter des connexions de certains internautes si on va vers un modèle de plus en plus streamé comme ça, Maëlle Guiton ?
Ah bah, de toute façon, ça c'est l'éternel débat sur la neutralité du net. Hein. On a vu que ça avait fait l'objet de batailles très féroces aux États-Unis, qui finalement s'était réglé sous Obama en faveur de la neutralité du net, puisque c'était rentré un peu dans le dur du droit. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on voit que ça essaye de grignoter, etc. On sait bien aussi d'ailleurs que en France comme en Europe, hein, les opérateurs eux-mêmes. Et c'est plutôt de faire passer l'idée que, bah oui, ça serait bien de pouvoir moduler aussi le trafic, enfin des abonnements en fonction du trafic, enfin pour pouvoir assumer les coûts d'infrastructure. Enfin, en tout cas, c'est le discours officiel. Donc oui, je pense que ça va participer sans doute à la vie de ce débat, mais de la même manière, effectivement, que l'explosion de la vidéo l'a aussi beaucoup fait évoluer.
Renforcé, effectivement. Alors, autre actualité de Google, mais qui en fait finalement rejoint celle-ci, qui nous pousse à nous demander pourquoi Google agit comme ça. Cette semaine, Bruxelles a infligé une amende, donc 1,5 milliard en fait, de dollars à Google pour un système de publicité contextuelle. Vous allez nous expliquer exactement comment ça marche, qui s'appelle AdSense for Search, et qui est en situation d'abus de position dominante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette amende et est-ce que c'est significatif pour Google? Parce qu'on est quand même, pour une fois, sur des chiffres qui sont très importants. On dit souvent que l'Europe fait des amendes symboliques. Là, c'est pas tout à fait le cas, Emmanuel Paquette.
Oui, alors symbolique, ça dépend pour qui. Là, un milliard quatre, effectivement, ça peut paraître énorme. C'est vrai que quand on regarde Google et son chiffre d'affaires qui est de 136 milliards de dollars,
c'est pas si énorme.
Voilà, c'est 0,1%, donc c'est quasiment rien du tout en fait pour Google. Mais l'impact est ailleurs. L'impact, c'est un impact symbolique sur la puissance de cette société et sur le traitement qu'elle peut avoir avec des sites tiers, puisqu'en l'occurrence, donc là, on parle de publicité qui est liée au search. Donc l'idée, c'est que des sites tiers, n'importe lesquels aujourd'hui, peuvent intégrer des moteurs de recherche pour pouvoir faire des recherches à l'intérieur d'un site internet. Et là, Google propose un outil qui permet, en fonction des requêtes qui sont réalisées sur un site internet, d'afficher des petites informations, des petits liens, des petits liens sponsorisés dans le site internet d'un éditeur, sur lequel il y a un annonceur qui a payé pour être référencé. Et si on clique dessus, si un internaute clique dessus, et ben il y a un partage de revenus publicitaires entre Google d'un côté et le site qui a intégré ces annonces de l'autre côté. Donc ça, c'est la base de ce qu'on appelle le AdSense for Search, puisqu'il y a un autre AdSense for Content, par exemple. Mais là, c'est AdSense for Search de chez Google.
Pour contenu, ouais.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que Google, quand il propose ça, impose au site de ne pas avoir d'autres moteurs de recherche intégrés.
Bah, en fait, de ce que j'ai compris, il y a eu plus ou moins deux phases. C'est-à-dire qu'entre 2006 et 2009, il y avait effectivement une clause d'exclusivité. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait pas utiliser d'autres, enfin les utilisateurs de AdSense for Search ne devaient pas utiliser d'autres services de ce type. Et ensuite, ça s'est assoupli parce qu'ils ont dû se dire quand même que effectivement ça pouvait leur créer des problèmes en termes de concurrence. Ils ont imposé un minimum de liens AdSense à afficher en fait sur les pages web. Et c'est là effectivement, enfin c'est sur l'ensemble de la séquence que la Commission européenne a tiqué. Alors c'est des clauses qui ont disparu en 2016. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, hein, c'est que évidemment du côté de Google, leur communication vise surtout à dire que mais pas du tout, ils font des efforts, etc. Mmh. Pour le coup, on peut considérer que la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui pour le coup est vraiment en pointe hein, sur ces affaires-là, quand elle dit que les amendes successives ont poussé Google à évoluer, c'est très manifestement le cas parce que c'est pas la première, ça faut peut-être le rappeler.
Il y en a d'autres qui doivent arriver dans pas longtemps, c'est ça.
Et puis il y en a surtout eu avant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu 2,42 milliards d'euros en juin 2017. Là, c'était à propos de Google Shopping et des pratiques effectivement anticoncurrentielles de Google Shopping. Et en juillet 2018, une amende encore plus forte, qui pour le coup doit être le record hein, à l'heure actuelle, qui était de 4,34 milliards d'euros pour en gros avoir favorisé dans Android, qui est donc son système d'exploitation mobile, son outil de recherche et son navigateur Google Chrome.
Et alors peut-être du coup, vu qu'il nous reste 2 minutes pour clore ce débat, il y a une réaction plutôt mesurée de Google. Et comment est-ce qu'on peut lire cette amende et aussi ce que ça peut susciter dans la politique de Google? Est-ce qu'on peut se dire que l'Union européenne va continuer à faire des amendes? Est-ce que Google réagit véritablement? Et comment est-ce qu'on peut aussi lire cet investissement, par exemple, dans cette histoire de console, dans ce climat-là, Emmanuel Paquette, peut-être?
Deux réponses. La première, c'est que AdSense, c'est plus rien, en fait, chez Google. Ça représente, en 2016, c'était 17% du chiffre d'affaires. En 2017, c'était 15,9%. Et en 2018, c'est 14,7%. Donc AdSense est en train de disparaître en termes d'activité. Donc céder de ce point de vue-là pour Google, c'est un combat déjà du passé. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi de dire que la Commission européenne réagit peut-être bien, mais trop tard, et qu'au niveau technologie, les choses évoluent beaucoup trop vite. Donc le temps qu'une décision soit prise, eh ben en fait, la technologie et le marché a déjà changé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut bien voir qu'on arrive à la fin de la mandature de Margrethe Vestager, puisque les élections sont au mois de mai. Elle vise quand même la présidence de la Commission européenne. Donc infliger des amendes comme ça, c'est aussi se mettre en avant au niveau politique. Donc c'est très important pour elle, pour avoir des chances, surtout que son pays aujourd'hui, le Danemark, ne la soutient pas, ou peu. Donc c'est un moyen pour elle de faire pression pour essayer de candidater et devenir la prochaine présidente.
En un mot, Maëlle Guiton.
Oui, il y a aussi pas mal d'observateurs qui s'inquiètent justement de l'arrivée de Google dans le jeu vidéo en disant cette entreprise qui a déjà une position ultra dominante et notamment qui est assise sur un gisement énorme de données personnelles, mais encore, arrive encore dans un nouveau secteur avec le risque effectivement de
le bousculer,
de peser dessus. Et du coup, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que la loi et les sanctions
sont toujours en retard.
Entre guillemets, toujours un train de retard par rapport à ce type de choses. Ouais.
Merci à tous les deux, Emmanuel Paquette de L'Express, Samaël Guiton de Libération. C'est la fin de Soft Power, on en reste là pour ce soir. La semaine prochaine, on retrouve Frédéric Martel avec un sujet, comment se soigner sur Internet sans devenir hypochondriaque.